Mais Caton, au contraire, faisant gloire, dit qu'il laissa en Espagne le cheval duquel il s'était servi à la guerre, durant son consulat, pour épargner à la chose publique l'argent qu'il eût coûté à le ramener par mer en Italie. Or, si cela se doit attribuer à une magnanimité ou bien à une chicheté, on en pourrait alléguer des raisons apparentes d'une part et d'autre. Mais, au demeurant, c'était véritablement un personnage d'abstinence, merveilleusement admirable. Car étant chef d'armée, il ne prit jamais du public plus de 3 minots de froment par mois. Pour la nourriture de lui et de sa famille, ni plus d'1,5 minot d'orge par jour pour la nourriture de ses chevaux et autres bêtes de voiture. Le gouvernement de l'île de Sardaigne lui échut une fois par le sort, étant prêteur. Et au lieu que les autres prêteurs avant lui mettaient le pays en grands frais à les fournir de pavillons, de lits, de robes et autres meubles, et chargeaient les habitants d'une grande suite de serviteurs, et grand nombre de leurs amis, qu'ils traînaient toujours quand et eux, et d'une grosse dépense qu'ils faisaient ordinairement en banquets et festoiements, lui, au contraire, y fit un changement de superfluité excessive en simplicité incroyable. Car il ne leur fit pas coûter, pour lui, un tout seul denier, parce qu'il allait faisant sa visitation par les villes à pied, sans monture quelconque, et le suivait seulement un officier de la chose publique qui lui portait une robe et un vase à offrir du vin aux dieux dans les sacrifices. Mais, comme il se montrait ainsi simple et facile au sujet en telle chose, aussi leur faisait-il d'autre côté bien sentir sa gravité et son austérité dans les choses qui concernaient le fait de la justice. Là où il ne pardonnait à personne, et dans les ordonnances et commandements, qu'il leur faisait au nom de la chose publique. Car là, il y était si sévère et si âpre qu'il ne voulait pas que l'on y faillît d'un seul point, tellement que l'Empire romain ne fut jamais ni plus aimable ni plus redoutable aux habitants de la Sardaigne qu'il fut sous son gouvernement. Ce que son style même et sa manière d'écrire et de parler nous représentent évidemment, car elle est plaisante et néanmoins grave, douce et épouvantable, gaie et austère, sentencieuse et toutefois familière, telle qu'il faut à disputer, ni plus ni moins que Platon dit que Socrate, à l'aborder, semblait de prime face homme ignorant et grossier à ceux qui n'en connaissaient que le dehors, ou moqueur et piquant en parole. Mais quand on le venait à sonder jusqu'au fond et pénétrer au-dedans, on le trouvait plein de graves sentences, de raisons, remontrances et discours qui atteignaient si bien les cœurs au vif qu'elles faisaient venir les larmes aux yeux des écoutants et tournaient les hommes en tel sens comme ils voulaient. Pourtant ne puis-je entendre quelle raison meut ceux qui tiennent que le style de Caton ressemble à celui de Lysias. Toutefois, laissons en faire le jugement à ceux qui font profession de discerner les divers genres d'orateurs et les différentes formes de style. Car quant à moi, je me contenterai pour le présent de mettre par écrit seulement quelques-uns de ces beaux dits et sentences notables, parce que je suis d'opinion que les mœurs des hommes se découvrent beaucoup mieux par les paroles que non par les traits du visage, comme plusieurs estiment. Un jour donc qu'il tâchait à détourner le peuple romain, lequel voulait à toute force que l'on fît hors de saison une distribution gratuite de blé à chaque citoyen de Rome, il commença sa harangue par telle préface. Il est bien difficile, seigneur romain, de réduire à la raison par remontrance un ventre qui n'a point d'oreille. Et une autre fois, en blâmant la mauvaise police qui lors était à Rome, il dit qu'il était malaisé, préservé de ruine une cité en laquelle un poisson se vendait plus qu'un bœuf. Il disait aussi que les Romains ressemblaient à un troupeau de moutons, car tout ainsi que chaque mouton à part n'obéit pas au berger, mais quand ils sont ensemble, alors ils suivent tous, l'un pour l'amour de l'autre, ceux qui vont devant. Aussi, disait-il, quand vous êtes tous ensemble, vous vous laissez mener par le nez à tel de qui chacun de vous à part ne voudrait pas prendre le conseil en ses affaires privées. Et une autre fois, en devisant de la puissance que les dames romaines avaient sur leurs maris, « Les autres hommes, dit-il, commandent à leurs femmes, et nous, à tout le demeurant des hommes, et nos femmes nous commandent. » Mais ce dernier est emprunté et translaté d'édits aigus de Thémistocle, lequel, comme son fils lui fit beaucoup de choses par le moyen de sa mère, dit un jour à sa femme, « Les Athéniens commandent au demeurant des Grecs, moi aux Athéniens, toi à moi, et ton fils à toi. Pourtant, admoneste-le, qu'il use un peu plus modérément et plus réservement de la licence qu'on lui permet, par le moyen de laquelle il a, tout étourdi et folle qu'il est, plus de puissance et d'autorité que nul autre des Grecs. » Il disait aussi que le peuple romain ne mettait pas seulement le prix et la valeur aux diverses sortes de pourpres, mais aussi aux études et aux exercices de la jeunesse, car tout ainsi, disait-il, que les teinturiers teignent le plus souvent la couleur qu'ils voient être la plus requise et qui plus universellement plaît aux yeux des hommes, aussi les jeunes gens romains mettent peine d'apprendre et s'adonnent aux états, vacations et autres exercices à qui plus vous donnez de louanges et plus vous honorez. Il admonestait ordinairement les Romains que si par vertu et par tempérance ils étaient devenus ainsi grands et puissants, ils ne se muassent point en pis, ou s'ils s'étaient fait grands par vice et par intempérance, qu'ils se changeassent en mieux, parce que par ces moyens-là, ils seraient déjà devenus assez grands. Il disait aussi que ceux qui briguaient ambitieusement et souvent les états et offices de la chose publique semblaient avoir peur de faillir leur chemin, et pour cette cause qu'ils voulaient toujours avoir des huissiers et des massiers devant eux pour les conduire, de peur qu'ils ne s'égarassent par la ville. Il reprenait aussi ceux qui élisaient plusieurs fois de même personne à même magistrature. « Car semble-t-il, dit-il, ou que vous n'estimez pas beaucoup vos magistrats, ou que vous n'avez pas beaucoup d'hommes que vous jugiez dignes de vous administrer. » Il y avait un de ses ennemis qui menait une méchante, malheureuse et honteuse vie, duquel il soulait dire que, quand sa mère prie au Dieu qu'elle le laisse sur la terre, elle ne quitte pas prier, mais maudire, comme voulant dire que c'était une peste au monde. Et d'un autre qui avait vendu les terres en héritage que ses pères lui avaient laissées, étant au long de la marine, en le montrant du doigt, il faisait semblant de s'ébahir comment il était si puissant homme, qu'il avait plus de force que n'avait la mère. Car ce que la mer va minant petit à petit en longtemps et à grand-peine, il l'a avalé tout à un coup. Une autre fois que le roi Eumène était venu à Rome, le Sénat lui fit un accueil merveilleux et s'efforçait, tous les plus gros personnages de la ville, à le caresser et honorer à l'envi l'un de l'autre. Mais Caton, au contraire, montrait évidemment qu'il avait toutes ses caresses pour suspectes et se gardait de le hanter. Et comme quelqu'un de ses familiers lui dit « Je m'émerveille, comme vous fuyez ainsi la fréquentation du roi Eumène, vu que c'est un si bon prince, et qui tant veut de bien aux Romains. »« Je veux bien, répondit-il, qu'il soit ainsi. Mais comment qu'il en aille, un roi est toujours de sa nature une bête ravissante, et qui vit de proie. Et s'il n'y eut, on croit, tant fut-il loué et estimé, qui mérita d'être comparé à un Épaminondas, un Périclès, un Thémistocle, ni à un Manius Curius, ou à un Hamilcar surnommé Barca. » Il disait aussi que ses ennemis lui portaient envie, parce que ordinairement il se levait la nuit avant le jour, et oubliait ses particulières affaires pour vaquer au public, et affirmait qu'il aimait mieux être privé de la récompense d'un bienfait que non puni d'un méfait, et qu'il pardonnait à tout autre qui faillait par erreur accepter à soi-même. Un jour, comme le peuple eut élu et député 3 ambassadeurs pour envoyer au royaume de Bithynie, dont l'un avait les pieds tout gâtés de gouttes, l'autre la tête toute pleine de trous et de fosses pour les coups qu'il y avait eus, et le tiers était tenu pour folle, Caton en se riant se prit à dire que l'on envoyait une ambassade qui n'avait ni pied, ni tête, ni cœur. Scipion le pria une fois en faveur de Polybe pour les bannis du pays d'Achaïe. La matière fut prise en délibération du Sénat, là où il y eut grande dispute et grande diversité d'opinions entre les sénateurs, parce que les uns voulaient qu'ils fussent restitués en leur maison et en leurs biens, les autres l'empêchaient. Hécaton, se dressant en pied, leur dit « Il semble que nous n'ayons autre chose à penser ni à faire, vu que nous nous amusons tout un jour à disputer et contester, à savoir si ces vieillards grecs ici seront portés en terre par les fossoyeurs et porteurs de Rome, ou bien par ceux d'Achaïe. » Si fut à la fin conclu et arrêté qu'ils seraient remis et restitués en leur pays. Mais quelques jours après, Polybe voulut de rechef présenter requête au Sénat, tendant à ce que ces bannis restitués par ordonnance du Sénat eussent les mêmes états et honneurs en Achaïe qu'ils avaient quand ils furent déchassés. Mais avant que le faire, il voulut premièrement sonder ce qu'il en semblait à Caton, lequel lui répondit en riant. « Il me semble, Polybe, que tu fais comme Ulysse, qui étant une fois échappé de la caverne du géant Cyclope, y voulut retourner pour aller quérir son chapeau et sa ceinture qu'il avait oubliés. » Il disait ainsi que les sages apprenaient et profitaient plus des fous que ne faisaient les fous des sages, parce que les sages voyaient les fautes que font les fous et se donnent garde d'y tomber, là où les fous ne s'étudient point à imiter les beaux et bons actes que font les sages. Il disait davantage qu'il aimait mieux les jeunes hommes qui rougissaient qu'il ne faisait ceux qui pâlissaient, et qu'il ne voulait point de soudards qui remuassent les mains en allant par les champs, ni les pieds en combattant, ni qui renflassent plus fort en dormant qu'ils ne criaient en se battant. Un jour, blâmant quelqu'un qui était extrêmement gras et replet, « À quoi, dit-il, pourrait être utile à la chose publique un corps qui, depuis le menton jusqu'à la nature, n'est rien que ventre ?» Un autre homme voluptueux qui cherchait à l'accointer et à entrer en familiarité avec lui, « Je ne saurais, dit-il en le refusant, vivre ni converser avec homme qui ait le palais et la langue plus sensibles que le cœur. » Il disait aussi que l'âme d'un amoureux vivait encore d'autrui, et qu'en toute sa vie, il s'était repenti de trois choses. La première, s'il avait jamais dit aucune chose de secret à femme. La seconde, s'il s'était honte allé par eau là où il eût pu aller par terre. La troisième, s'il avait passé un jour entier sans rien faire. Et à un vieillard de mauvaise vie, en le reprenant, « Vieillard, dit-il, la vieillesse a de soi assez d'autres laideurs, n'y ajoute point encore celle qui procède de vice. Et à un tribun du peuple séditieux, que l'on soupçonnait d'être un empoisonneur, et qui tâchait à faire passer à toute force et autorisé par le peuple un édit qui était inique. Je ne sais, dit-il, lequel des deux est le pire, ou de boire les breuvages que tu bailles, ou de recevoir les édits que tu persuades. » Une autre fois, étant injurié par un qui avait toujours vécu désordonnément et méchamment, « Je ne suis pas, dit-il, pareil à toi en cette façon de combattre à injure, car tu es tout accoutumé à dire facilement et à souffrir aisément que l'on ne dise outrage et vilainie, là où, quant à moi, je n'ai point accoutumé d'en ouïr, ni ne prends point de plaisir à en dire. » Voilà quelle était la manière de ces rencontres et sentences notables, au moins de celles que l'on nous a laissées par écrit, par lesquelles on peut conjecturer de quelle mœurs et de quelle nature il était. Or, après qu'il eût été consul avec son ami Valerius Flaccus, il lui eût échu par le sort le gouvernement de l'Espagne, qui est deçà la rivière de Bétice, et comme il y faisait la guerre, en conquérant aucun des peuples par force d'armes, et gagnant les autres par aimable voie, il se trouva tout à coup surpris et environné d'une grande et grosse armée des barbares, tellement qu'il était en grand danger d'être honteusement pris prisonnier, ou bien d'être tué sur le champ. Par quoi il envoya soudainement demander du secours aux Celtibériens, qui sont voisins de la marche où l'or il se trouvait. Ces Celtibériens lui demandèrent 200 talents pour salaire de l'aller secourir, ce que les autres Romains, qui étaient autour de lui, ne pouvaient comporter. que l'on acheta ainsi le secours de ces barbares. Mais Caton leur répondit qu'ils s'abusaient, parce qu'il n'y avait en cela ni danger, ni déshonneur. Car si nous gagnons la bataille, nous leur paierons ce que nous leur aurons promis, des dépouilles et de l'argent de nos ennemis. Et si nous la perdons, eux et nous y demeureront tellement qu'il n'y aura plus ni qui paie, ni qui demande à être payé. À la fin, il gagna cette bataille, mais ce fut après l'avoir bien débattue, et depuis lui succédèrent ses affaires fort heureusement, car Polybe écrit qu'à son mandement, les murailles de toutes les villes qui sont au-dessus de la rivière de Bétis furent abattues et rasées en un jour. Il écrit bien lui-même qu'il prit plus de villes en Espagne qu'il n'y demeura de jour. Ce qui n'est point vaine vanterie, si ce que l'on en trouve par écrit est véritable, qu'il y en avait bien 400. Et combien que les soudards en ce voyage eussent bien fait sous lui leur besogne, et qu'ils eussent beaucoup gagné, toutefois encore, leur fit-il départir à chacun une livre pesant d'argent, disant qu'il valait mieux que plusieurs retournassent en leur maison avec de l'argent que peu avec de l'or. Mais quant à lui, il affirme que de tout le butin qui fut gagné sur les ennemis, il n'en était jamais rien venu jusqu'à lui, sinon ce qu'il avait bu et mangé. Non pas, dit-il, que je blâme ceux qui tâchent à s'enrichir de telles dépouilles, mais parce que j'aime mieux étriver et combattre de la vertu avec les plus vertueux que de richesse avec les plus riches, ni de convoitise d'amasser avec les plus avaricieux. Et s'il ne se maintenait pas lui seul pur et net de toute corruption et concussion, mais aussi tous ses domestiques et autres qui dépendaient de lui. Il avait en ce voyage-là d'Espagne 5 de ses serviteurs avec lui, dont l'un, qui se nommait Pacus, acheta 3 jeunes garçons de ceux que l'on avait pris à la guerre, quand on vendit le pillage au plus offrant. Caton le sut, de quoi le serviteur eut si grande frayeur qu'il se pendit et étrangla lui-même, de peur de venir devant la face de son maître. Et Caton fit revendre les garçons et mettre l'argent qu'ils avaient été vendus au coffre de l'épargne publique. Au reste, lui étant encore en Espagne, Scipion le Grand, qui était son ennemi, et voulait empêcher le cours de ses prospérités, et aussi avoir l'honneur de parachever la conquête de toutes les Espagnes, fit tant à Rome par ses menées que le peuple l'élut pour aller au lieu de Caton. S'il ne fut pas plutôt député à cette charge, qu'il se hâta, à la plus grande diligence qu'il lui fut possible, de s'y en aller, afin de tant plus tôt faire cesser et expirer l'autorité et la puissance de Caton, lequel, se voyant, prit seulement 5 enseignes de gens de pied et 500 chevaux pour l'accompagner et reconduire, avec lesquels, toutefois, en passant chemin, il subjuga un peuple d'Espagne qui se nomme les Lacétaniens et reprit 600 traîtres qui étaient passés du camp des Romains et allaient se rendre aux ennemis lesquels il fit tous mourir, dont Scipion fut fort marri, disant que Caton lui faisait tort. Mais Caton, se moquant de lui sous parole couverte, disait que c'était le vrai moyen par lequel la cité de Rome deviendrait très grande et très florissante, quand les citoyens, qui seraient descendus et extraits d'anciennes noblesses, ne voudraient point souffrir que les hommes neufs et venus de bas lieux emportassent le prix de la vertu devant eux, et aussi quand ceux qui seraient nés en petits lieux et issus de races populaires combattraient, à qui serait le plus vertueux, à l'encontre de ceux qui les surmonteraient en noblesse de sang et en gloire de leurs ancêtres. Toutefois, arrivé qu'il fût à Rome de retour, le Sénat ordonna que rien ne serait changé ni mué de tout ce que Caton aurait fait ou institué durant le temps de sa magistrature, tellement que le gouvernement que Scipion avait si affectueusement requis et pourchassé en Espagne lui diminua plus sa gloire qu'il ne fit celle de Caton, parce que tout son temps se passa en paix sans qu'il y eût matière d'en faire exploit aucun digne de mémoire. Au surplus, Caton, après avoir été consul et obtenu l'honneur du triomphe, ne fit point comme beaucoup d'autres qui ne se proposent pas la vraie vertu pour leur but, mais seulement l'honneur et la gloire du monde, au moyen de quoi, depuis qu'ils sont parvenus au suprême degré d'honneur, comme quand ils ont été consuls, ou qu'ils ont obtenu quelque triomphe, ils se retirent de l'administration, des affaires de la chose publique, pour de là en avant vivre à leur aise en délices, sans plus se vouloir entremettre de rien. Mais au contraire, Caton n'abandonna jamais l'exercice de la vertu. Mais tout aussi que ceux qui ne font que commencer à venir au monde et qui sont, par manière de dire, affamés d'honneur et de réputation, il recommença tout de nouveau, en prenant autant ou plus de peine que jamais, et se présentant ordinairement sur la place pour faire plaisir tant à ses amis qu'à tous autres citoyens qui avaient besoin de son conseil ou de sa peine, défendant leur cause en jugement et les accompagnant en leur charge de guerre, comme il accompagna Tiberius Sempronius étant consul et fut l'un des lieutenants de sa conquête au pays de la Thrace et des provinces voisines de la rivière du Danube en cette marche.